Stop, c'est parti.
Devant la télé.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Il est tout pile 9h40. Soyez les bienvenus dans l'instant M.
Et vous coupez ?
Non, je vous vois.
Vous êtes en direct, allez-y.
Démission surprise d'une figure clé au Vatican, Greg Burke, journaliste américain, membre de l'Opus Dei, porte-parole du pape François. Il travaillait déjà d'ailleurs pour son prédécesseur Benoît XVI. En arrière-plan, le Saint-Siège, aux prises avec les scandales pédophiles qui secouent l'Église. Mais également une vaste réforme des médias pontificaux. Vous l'ignorez sans doute, le Vatican est une machine de communication et François est un communicant, tout du moins un pape qui pense la communication et ses outils. Ceci dit, n'a-t-on pas là affaire à une religion dite de la révélation ? N'est-ce pas la mission même de l'Église que d'être une entité communicante ?
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buon anno a tutti.
Voilà, évidemment, hier, place Saint-Pierre, le pape François, vous l'avez reconnu. Mes invités sont Bénédicte Luteau. Bonjour Bénédicte.
Bonjour.
Vous écrivez en ce moment pour La Vie, vous avez été précédemment journaliste à Rome et au Vatican, de la même manière que Guillaume Goubert. Bonjour Guillaume Goubert, directeur du quotidien La Croix, également ancien correspondant au Vatican. Voilà, et avec beaucoup de regrets, m'a-t-il dit, de belles années de journalisme. Alors je voudrais qu'on commente ensemble cette décision qualifiée par la presse italienne d'impromptu, en tout cas d'apparu sans explication, peut-être pour des observateurs un peu extérieurs aux affaires vaticanistes. La démission donc de l'américain Greg Burke, il faut dire Burke peut-être, non
Burke,
et de son adjointe, l'espagnole Paloma Garcia Overello, qui supervisait la salle de presse et qui d'ailleurs était la première femme à tenir ce poste. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire l'un et l'autre? Et puis ensuite, on va voir dans quel contexte ça s'inscrit.
Ça s'inscrit dans une réorganisation assez générale et entamée depuis plusieurs années des outils de communication du Saint-Siège et dans lequel la salle de presse qui avait traditionnellement une grande autonomie et le directeur de la salle de presse qui est en même temps traditionnellement le porte-parole du Vatican, avait un contact direct avec le pape. Or, dans cette nouvelle organisation...
C'est un modèle un peu comme la Maison Blanche, finalement.
Oui,
ça ressemble un petit peu à ces manières de faire.
C'est à la fois un lieu de travail où les journalistes viennent, les accrédités viennent, ils ont des bureaux, des box, et puis il y a une salle, il y a un auditorium pour les conférences de presse, et en même temps, c'est là donc que le directeur de la salle de presse répond en public ou par téléphone, par mail aux questions des journalistes.
Voilà.
Et donc, ce directeur de la salle de presse, qui avait pris beaucoup de relief sous le pontificat de Jean-Paul II avec un Espagnol qui s'appelait Joaquín Navarro Valls, qui avait un contact quotidien direct avec le pape.
Qui était déjà un membre de l'Opus Dei.
Qui était déjà comme Greg, oui. Aujourd'hui, le directeur de la salle de presse, en gros, se retrouve avec deux supérieurs hiérarchiques entre lui et le pape. Et on peut penser que Greg Burke a trouvé que c'était beaucoup moins intéressant de travailler dans ces conditions-là et qu'il a préféré s'en aller. C'est probablement pas la seule explication, mais c'est la première qui me vient à l'esprit.
Alors, on va l'écouter au mois de février à propos du Chili, juste après le voyage du pape dans ce pays, voyage dont on va vous raconter le déroulement.
The Pope has decided to send Archbishop Charles Scicluna to Chile to listen to all those who want to give testimony concerning the case of Bishop Barros. Archbishop Scicluna is one of the biggest experts in the church on child sex abuse. He was the former prosecutor here in the Vatican. He's currently the president of what is the equivalent of a court of appeals.
Voilà, vous entendez l'américain Greg Burke, qui est donc jusqu'au 31 décembre porte-parole du pape François. Il faut quand même préciser qu'il a eu une longue carrière de journaliste avant cela, Greg Burke. Il a été journaliste à Rome pour l'hebdomadaire catholique National Catholic Reporter. Il a travaillé pour le magazine Time. Il a été correspondant pour la chaîne Fox News en Italie. Il a 59 ans. Il est membre de l'Opus Dei. Peut-être un mot, Guillaume Goubert, sur ce que c'est que l'Opus Dei et si là-dedans ça joue un rôle.
Alors, l'Opus Dei, c'est un mouvement d'église. C'est un statut un petit peu particulier de prélature personnelle, mais qui a été créé il y a une cinquantaine d'années, un peu plus, par un prêtre espagnol, et qui est un mouvement principalement de laïcs qui mettent en œuvre l'idée de la sanctification du travail, d'être des chrétiens agissant dans la société. C'est un mouvement auquel on a prêté une très très grande influence auprès de Jean-Paul II et qui a la réputation, à mon avis, excessive d'être un mouvement très réactionnaire. En tout cas, il est moins qu'un certain nombre d'autres, et qui sont généralement des personnes qui les laïcs de l'Opus Dei sont des gens qui prennent leur mission extrêmement à cœur. Moi, personnellement, par exemple, avec Navarro Valls, que j'ai fréquenté pendant 4 ans,
qui était le porte-parole de Jean-Paul II,
j'ai toujours eu l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un qui faisait très très bien son travail et qui confondait pas du tout des enjeux idéologiques avec son travail de porte-parole du pape.
Bénédicte Luteau, c'est important aussi cette démission qui arrive au terme d'une annus horribilis, on va dire, pour François, l'Église secouée par les scandales sexuels, les scandales de pédophilie. Il faut quand même rappeler que là, ces derniers jours, le pape François a congédié 3 évêques, dont 2 qui sont directement impliqués dans des scandales sexuels.
Oui, effectivement. Donc, ça a été une année avec des révélations en cascade sur des abus sexuels au sein de l'Église. Y compris jusqu'au plus haut sommet du Vatican, puisqu'effectivement il y a ses propres cardinaux conseillers du pape François qui eux-mêmes étaient impliqués dans des affaires d'abus. Et il faut rappeler aussi qu'il y a un sommet qui va se tenir au Vatican,
très important,
qui a été convoqué par le pape François, donc qui va se tenir là fin février. Donc quelque part c'est
mais quand on dit un sommet, c'est-à-dire vraiment une réunion internationale des victimes, des experts, justement sur ces questions de pédophilie et de scandales sexuels au sein de l'Église.
C'est assez inédit. Le pape a vraiment convoqué tous les représentants des épiscopats, donc des églises locales du monde entier pour évoquer ces sujets. Donc en 2019, on peut dire que la communication du Vatican, ça va être crucial qu'elle soit claire, efficace, unifiée. Ce qui n'a pas forcément été le cas ces derniers mois. Il y a eu un certain nombre de couacs.
Ouais.
Donc là, ces démissions à la chaîne, et il y a eu des nominations aussi récemment dans les différentes têtes pensantes du ministère de la communication. C'est une manière de renouveler toute l'équipe pour que la communication
soit
efficace.
Alors justement, on va vous expliquer le modèle mis en place et voulu par le pape François. Il date de 2015. On vous fait écouter Radio Vatican. Peut-être que vous ne connaissez pas Radio Vatican.
Vatican News, le journal, il est 8h30.
Élection générale en République démocratique du Congo hier. Le pape, après la prière de l'Angélus, a appelé tous les acteurs politiques à garantir un scrutin régulier et pacifique. Sur place, de nombreux incidents techniques ou de procédures ont eu lieu. Nous ferons le point dans ce journal. Gaudete et Exultate, la modification du catéchisme de l'Église catholique, le synode sur les jeunes ou encore le voyage du cardinal Thor en Arabie Saoudite. Nous reviendrons sur quelques-uns des faits marquants au Vatican au cours de l'année 2018. C'est à suivre à la fin de ce journal.
Alors, on va vous expliquer ce qu'est Vatican News, ce vaste projet voulu par François en 2015. Mais d'abord, un mot avec vous, Guillaume Goubert, sur Radio Vatican et l'Osservatore Romano, qui sont un grand quotidien papier, un journal et une radio, qui sont des médias extrêmement anciens. Extrêmement ancien. Il y a une longue tradition médiatique au sein de l'Église.
Oui, tout à fait. L'Osservatore Romano a été fondé il y a 150 ans, à peu près, je crois, 157 ans, je crois.
1861.
Qui est un quotidien qui est réalisé à l'intérieur même de la Cité du Vatican, avec une imprimerie qui a la réputation d'être une de celles qui peuvent imprimer dans le plus de langues, parce qu'ils disposent des caractères nécessaires, ce qu'on appelle la typographie vaticane. Et puis Radio Vatican a été une des premières, toutes premières radios.
1931.
Voilà, avec comme fondateur Marconi lui-même, donc un des inventeurs de la radiophonie, qui était italien et très catholique.
C'est Marconi qui a fondé Radio Vatican.
À la demande du pape de l'époque, a mis en place les infrastructures techniques nécessaires pour Radio Vatican. Et on peut raconter que, par exemple, aux environs de Rome, le Vatican est propriétaire d'un vaste terrain qui a un privilège d'extraterritorialité, où il y a un très grand mât d'émissions, pour les émissions en ondes courtes, notamment en direction de l'Afrique, et qui a la forme d'un crucifix.
Ah oui. 40 langues Radio Vatican. Alors en 2015, le pape François publie un motu proprio. Je viens donc d'apprendre ce qu'est un motu proprio. C'est une forme de décret ou d'édit, c'est-à-dire une décision du pape qui est publiée et annoncée. Il crée un indicataire, une sorte de secrétariat d'État, un ministère pour la communication. Et surtout, il veut, Bénédicte Luteau, réunir dans les 4 années qui suivent, donc l'échéance arrive là cette année, tous les outils de communication du Vatican, tous les outils de communication pontificaux, en un seul et même, on va dire, outil globalisé, ou plurimédia, pluriculturel, plurilingue également. Donc il y a l'Osservatore Romano dont on vient de parler, il y a la librairie, il y a les imprimeries, il y a le bureau internet, il y a le service de photographie également du Vatican.
Voilà, donc il y a 2 objectifs. Oui. Le premier, on va dire que ce serait de prendre un petit peu le tournant, il était temps, des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, du digital, donc de passer un peu au digital et au multimédia.
Bah, il était temps, le pape est quand même très très présent, enfin Pontifex, son compte Twitter, 18 millions d'abonnés anglophones, oui. 1 million et demi de francophones, 5 millions d'italiens, 1 million qui le suivent en latin, 4 millions de lusophones, 17 millions d'hispanophones, donc il est quand même assez présent sur les réseaux sociaux.
Le pape François est très présent sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il a plus de followers que Barack Obama. Ah. Donc effectivement, le tournant avait déjà été initié, mais pas au niveau des médias. Mm-hmm. Il y avait pas. Enfin, là, l'idée, c'est vraiment de créer une super structure, une seule plateforme. Un seul site qui s'appelle donc Vatican News, qui englobe ce qui était autrefois la radio, donc Radio Vatican, le centre télévisé du Vatican, mm-hmm. la télévision vaticane, mm-hmm. et l'Osservatore Romano, qui est donc le journal officiel du Vatican, mm-hmm. Sous un seul, une seule et même plateforme.
Alors avec une espèce de super rédaction, enfin c'est comme ça que c'est présenté, initialement composé en 6 divisions linguistiques, qui à terme est capable de diffuser dans 33 langues. Donc ce sont des journalistes ou ce sont des super communicants?
Alors justement, c'est ce qui crée beaucoup d'inquiétudes en interne, c'est que ce sont des journalistes. Ce sont des journalistes qui sont attachés à l'information, au reportage, que ce soit dans l'Osservatore Romano ou Radio Vatican, il y avait l'idée, c'était de parler certes de la parole du pape et de l'Église, mais il y avait aussi, il y a toujours un grand traitement de l'information, de l'actualité internationale. Mais depuis le début de cette réforme, il y a eu un mouvement un glissement vers la communication. On a glissé de l'information à la communication.
Donc comme une forme d'énorme service d'attaché de presse.
Pour promouvoir la parole du pape, voir certains en off parler de vendre la marque du pape François. Alors ça c'était les inquiétudes. Maintenant ça va un petit peu mieux. Mais
Goubert, un mot sur Paolo Ruffini qui a donc été nommé à la tête de ce ministère de la communication. Il faut dire que c'est un laïc, c'est-à-dire un chrétien qui n'appartient pas à l'Église, exactement comme Greg Burke.
Enfin, non, il appartient à l'Église, mais il n'est pas prêtre.
Voilà,
ou évêque.
Il n'est pas prêtre.
C'est la première fois qu'un non-prêtre, même un non-évêque, se trouve. Parce que il y avait déjà eu quelques prêtres à la tête de dicastères, mais c'était très rare. Généralement, c'était des évêques. Donc, c'est effectivement le signe d'une montée en responsabilité des non-prêtres, ce qu'on appelle des laïcs.
C'est ce qu'on appelle des laïcs.
Dans le gouvernement,
c'est-à-dire
de l'Église.
Des catholiques pratiquants, mais pas religieux.
Voilà. N'ont pas reçu l'ordination. Mmh. Et Paolo Ruffini est un journaliste qui a une très longue carrière, qui a beaucoup, beaucoup d'expérience dans différents médias.
La RAI, par exemple,
L'un des patrons de la RAI. Il a aussi travaillé pour la chaîne de télévision des évêques italiens, parce que en Italie, l'Église a beaucoup de moyens financiers
et donc elle
entretient une chaîne de télévision.
Racontez-nous ça, parce que j'ai vu que la conférence épiscopale italienne avait une chaîne de radio, Radio In Blue, et TV 2000, c'est ça ?
2000, là.
Oui, 2000, là, pardon.
C'est effectivement, l'Église italienne bénéficie d'un système qui s'apparente un peu à ce qui existe également en Allemagne, c'est-à-dire qu'il touche une part d'impôt. Il y a un impôt d'Église, en tout cas la possibilité de verser une partie de ses impôts à l'Église. Donc les confessions confession religieuse en Italie ont pas mal de moyens financiers, mm-hmm. et évidemment en particulier l'Église catholique qui est ultra dominante. Et donc, ben, ils ont beaucoup d'argent et ça leur permet de faire vivre un quotidien qui s'appelle Avenir. Et puis,
et qui sont donc indépendants des médias pontificaux dont on parle
oui,
ce matin.
Fait,
voilà, c'est ça, c'est ça qui est important.
Le Vatican a un œil dessus, mais structurellement, ils sont indépendants. Oui.
C'est ça.
Enfin, ce sont des médias officiels quand même.
Hein, ouais, ouais.
Mais à la différence de la Croix, qui n'est pas l'organe des évêques français.
Eh bien voilà.
Je me dis que peut-être certains auditeurs se posent la question. Et qui est donc tout à fait indépendant financièrement de la structure.
Mais par ailleurs, il y a toute une constellation hein, quand on commence à plonger là-dedans et qu'on parle un petit peu italien, on découvre beaucoup de médias. Bénédicte Luteau, Vatican Insider, que j'ai lu hier, qui est donc un site d'info manifestement extrêmement bien informé sur les coulisses du Vatican.
Oui, tout à fait. Donc, Vatican Insider, ça va même être une source pour d'autres journalistes spécialistes du Vatican, ce qu'on appelle les vaticanistes.
Oui.
Ils sont très bien informés. Donc, ça a été créé par Andrea Tornelli, un journaliste italien très bien informé. Mm-hmm. Donc, c'est un site qui est hébergé par la Stampa,
oui.
qui est le troisième quotidien italien. Et voilà, c'est vraiment une
parce que
une
j'ai
pointure.
Vu que récemment il y avait eu toute une affaire autour d'une lettre de Benoît XVI qui aurait ou non adoubé les choix de François avec voilà.
Ça, censure. C'était avant avant Paolo Ruffini justement. Ouais. C'était un prêtre s'appelait Dario Vigano et il y a eu une petite bévue qui a été soigneusement exploitée par un certain nombre d'ennemis du pape François.
Ouais.
Et ça a amené la démission de Dario Vigano.
C'est ça. Donc une année assez secouée. Un dernier mot, parce que ça me semble très important dans les enjeux de communication. Bénédicte Luteau parlait vraiment de ces enjeux autour de cette conférence au mois de février sur les scandales sexuels et la pédophilie. Il y a aussi des enjeux politiques propres à la politique italienne, Guillaume Goubert. Il y a ce gouvernement d'extrême droite, enfin d'alliance des populistes et de l'extrême droite. Il y a un vrai virage opéré par la Ligue, par Matteo Salvini, qui est proche d'ultra-conservateurs catholique. Et finalement, pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots, mais François n'est pas du tout en hauteur de sainteté chez ces gens-là.
Ah, certainement pas, oui, effectivement. Et c'est un point de tension très, très important. Il y a effectivement une volonté de la part du gouvernement italien de procéder un peu comme le fait Orban en Hongrie ou le gouvernement polonais, c'est-à-dire d'invoquer les racines chrétiennes, mais moins comme une spiritualité ou un engagement de foi que comme une structure de contrôle de la société, c'est-à-dire ce qu'on appelle, c'était en France, entre les deux guerres, les idées de Charles Maurras, qui n'était pas croyant, mais qui trouvait que l'Église catholique était tout à fait nécessaire pour contrôler le peuple. Mm-hmm. Et en fait, le gouvernement italien, grosso modo, est un petit peu sur une ligne comme celle-là, qui n'est absolument pas celle du pape François.
Alors, on peut mentionner, par exemple, Fontana, ministre de la Famille, qui est un homme assez discret. Hein. Par exemple, en France, on n'en entend jamais parler. On entend toujours parler de Salvini et de son acolyte Luigi Di Maio. Donc, manifestement, Fontana est un ultra-conservateur proche des catholiques traditionnalistes. Je vous fais écouter. Est-ce qu'on a le temps, Matteo Salvini, devant la cathédrale de Milan.
Et juro di essere fedele al mio popolo, ai 60 milioni di italiani, di servirvi con onestà e con coraggio. Giuro di farlo rispettando gli insegnamenti contenuti in questo sacro Vangelo.
Voilà, un ministre de l'Intérieur qui jure sur l'Évangile d'être fidèle à son peuple, chapelet à la main.
L'Évangile qui dit « J'étais un étranger, vous m'avez accueilli ». C'est le Christ qui dit ça, l'Évangile. Je dis ça au passage.
Oui, c'est d'ailleurs la une de la Croix aujourd'hui, hein, ceux qui traversent la Manche et qu'on a du mal à accueillir. Non mais c'est un virage, Guillaume Goubert, et c'est important de savoir aussi que le Vatican, en termes de communication, doit faire face à ces attaques-là.
Oui, bien sûr, de même qu'il doit faire face à des attaques très vives au sein de l'épiscopat américain, et lui-même éventuellement sous influence de cercles très très conservateurs et qui sont furieux contre l'engagement social du pape François. Mmh. Et Il n'est pas impossible que dans la démission, mais j'ai pas d'infos très précises là-dessus, mais que dans la démission de Greg Burke, il y a aussi cette dimension-là qui soit un temps soit peu présente.
Merci beaucoup à tous les deux, Bénédicte Lutaud, qu'on peut lire dans La Vie, Merci. Et Guillaume Goubert, évidemment, qu'on retrouve à La Croix, traverser la Manche au péril de sa vie. C'est la une de ce matin. C'est la fin de l'émission. Bonjour Marie Sauvion.
Bonjour Sonia.
Alors, au programme à 10h.
Comment donner le goût de l'art aux enfants? Est-ce que vous alliez au musée petite?
Petite, beaucoup, beaucoup. Et vous puis moi, je culpabilise parce que le dimanche, je prépare mon émission du lundi. Et du coup, j'ai pas le temps d'emmener les miens au musée.
Eh ben, on va donner les clés pour que ce soit toujours des sorties réussies.
Formidable, à tout à l'heure.